journal Innocent Olinga.
L'armée ougandaise a tiré hier après-midi sur un navire congolais sur les lacs Albert. Selon les rescapés, il y aurait eu une dizaine de Congolais morts et environ 8 blessés. Des nouveaux affrontements signalés ce mardi dans les collines de Karuba et de Ngungu à une vingtaine de kilomètres de Sake dans les territoires de Masisi. Selon des sources militaires sur place, des insurgés fidèles à Laurent Kunda ont attaqué à nouveau les positions des FARDC très tôt le matin. La Banque mondiale a présenté ce mardi à Kinshasa son plan d'assistance au gouvernement congolais pour les 5 années à venir. Ce plan va s'appuyer sur les conclusions du DCRP, document des stratégies pour la réduction de la pauvreté. Bonsoir à tous. Les militaires ougandais ont attaqué hier une embarcation des civils congolais sur le lac Albert à environ 10 km des côtes congolaises de Kasini en territoire en Ituri, plutôt province orientale. Certains rescapés évoquent les bilans d'une dizaine de morts et environ 8 blessés. Information confirmée par le chef de la collectivité de Bahema Sud et par un officier des renseignements militaires des FARDC. Plus de détails avec Isaac Rimoyopé.
Cet incident s'est produit hier lundi aux environs de 16h locales. L'embarcation congolaise, en sobord une quarantaine de passagers et de marchandises, revenait des Rukwanzi, localité congolaise frontalière avec l'Ouganda, située à 2h de navigation de Kasseni sur le lac Albert. Certains passagers indiquent qu'ils ont été surpris par un canot rapide de l'armée ougandaise avec 8 militaires à bord. Les mêmes sources déclarent que ces militaires ougandais n'ont pas tardé à tirer à bout portant sur eux, comme nous relate cette dame blessée au cours des tirs.
Nous revenons de Rukwanzi au bord d'une embarcation qui avait beaucoup de passagers à son bord. Arrivés à côté de Kasseni, nous avions vu 8 militaires ougandais à bord de leur canot rapide en tenue et bien armés. De loin, nous avions cru que c'était des blancs qui s'amusaient sur le lac. Ils sont venus s'arrêter à côté de notre embarcation et ensuite, ils ont demandé à 2 militaires qui se trouvaient dans notre bateau de déposer les armes. Après, ils ont ouvert le feu sur nous sans demander quoi que ce soit. Lorsqu'ils ont constaté que beaucoup de gens sont morts, ils ont fui.
Contacté ce matin le commandant de la zone opérationnelle des FARDC en Ituri, le général André Kinkela s'est réservé de tout commentaire. Lui, l'autorité du district et un groupe de députés provinciaux et nationaux originaires de l'Ituri viennent de quitter Bounia pour Kasseni en vue de recueillir suffisamment d'informations sur cet incident. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Version ougandaise des incidents entre soldats ougandais et congolais sur les lacs. Selon les porte-parole de l'armée ougandaise citée par l'AFP, l'agence France Presse, l'accrochage a éclaté après l'interception par des casques bleus de la mission des Nations Unies en RDC d'une barge d'exploration de la société canadienne de prospection pétrolière Héritage qui, semble-t-il, s'est dirigée vers la partie congolaise du lac. Toujours selon la même source, des tirs ont éclaté lorsqu'un navire de l'armée congolaise a tenté d'empêcher les soldats ougandais d'obtenir la libération de la barge. Mais ce Tabaro a insisté sur le fait que la barge s'est trouvée du côté ougandais du lac lorsque la MONUC l'a saisie. Point de vue de la MONUC pour Michel Bonardo, porte-parole intérimaire de la mission onusienne au Congo. Il s'agit en fait de deux informations qu'on a malheureusement mises ensemble dans la publication. Il a donné ses explications au micro de Claude Bousset.
En fait, il s'agit de deux incidents séparés, tels qu'ils nous ont été rapportés. Le premier incident, un bateau travaille pour une compagnie d'exploration pétrolière ougandaise. C'est retrouvé dans les eaux congolaises. Et donc, pour protéger ce bateau, puisqu'on sait que la situation est un peu tendue sur le lac depuis les malencontreux événements d'il y a un mois, la MONUC a arraisonné effectivement ce bateau, l'a escorté jusqu'à Kasseni, et militaires de la MONUC se sont entretenus avec l'équipage de ce bateau, et ils sont restés en tout et pour tout une heure sur le sol congolais, et ensuite la MONUC les a réescortés jusque vers les eaux ougandaises. Deuxième événement, c'est un incident qui nous a été rapporté par les FARDC. On a pu constater nous-mêmes qu'il y avait effectivement 6 morts, donc 3 hommes, 2 femmes et 1 enfant, et c'est un événement qui serait survenu sur le lac Albert toujours, entre un bateau patrouille ougandais et un bateau civil congolais qui contenait à bord 2 militaires congolais armés.
Les parlementaires originaires de l'Ituri condamnent cette attaque de l'armée ougandaise contre l'embarcation des Congolais. Ils demandent au gouvernement central de prendre ses responsabilités pour que l'exploitation du pétrole sur les lacs Albert ne constitue pas une source d'insécurité pour la population de l'Ituri. Écoutez John Tinanzabo, député provincial et membre de l'UPC, l'Union des patriotes congolais, au micro d'Isaac Remoyope.
nous avons déploré cet incident malheureux qui est survenu pour la énième fois sur le lac Albert avec l'UPDF qui n'a pas hésité à tirer sur une barque civile. Vraiment, nous le regrettons. Cela va interpeller notre gouvernement parce que, vous savez, les dossiers de pétrole de lac Albert, à notre vue, semblent plutôt nous apporter malheur. Tout le temps, des incidents sur le lac, il y a des réunions qui se tiennent au sommet de l'État, entre les chefs de l'État et son homologue ougandais. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le résultat escompté. Il se serait entendu à Dar es Salaam. Malheureusement, il y a encore cet incident. Donc, nous, en tant qu'élus du peuple, nous regrettons, nous condamnons cet incident. Et nous interpellons le gouvernement pour que ce pétrole ne soit pas une nouvelle source d'insécurité pour l'Ituri qui a déjà trop souffert.
Des nouveaux affrontements signalés ce mardi dans les collines de Karouba et de Ngungu à une vingtaine de kilomètres de Sake dans les territoires des Massissi. Selon des sources militaires sur place, des insurgés fidèles à Laurent Kunda ont attaqué à nouveau les positions des FARDC vers 5h du matin. Ces combats reprennent dans ces territoires des Massissi après un cessez-le-feu imposé par la MONUC il y a 2 semaines à Sake et ses environs, toujours dans les mêmes territoires des Goma, Gisèle Cage.
Ces nouveaux tirs nourris dans les secteurs de Karouba et de Ngungu opposent des militaires de la 14e brigade intégrée à des dissidents fidèles à Laurent Kunda. Selon des sources militaires sur place, c'est vers 5h du matin, c'est mardi, que les positions FARDC ont été attaquées simultanément à Ngungu et à Karouba par des insurgés. Ces derniers tentent, selon la même source, de prendre le contrôle de la localité de Ngungu et des positions des FARDC situées autour de Karouba. Selon la même source, ces tirs se sont poursuivis au courant de la journée, mais aucun bilan n'est encore disponible. La 8e région militaire confirme les combats et indique que ce sont les FARDC qui ont été attaqués par des hommes de Kunda. Ces nouveaux affrontements entre des FARDC et des insurgés fidèles à Laurent Kunda surviennent après 2 semaines de cessation d'hostilité réclamée par la MONUC aux deux belligérants. Une cessation d'hostilité qui était encore observée jusqu'en week-end dernier. Gisèle Cache-Goma, Radio Capi.
Toujours dans cette province du Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku lance un ultimatum aux différents groupes armés à l'origine de l'insécurité dans sa province. Ils ont 21 jours, soit 3 semaines, pour déposer les armes et intégrer les processus de brassage. À défaut, ils seront considérés comme ennemis de la République et seront combattus. Ultimatum lancé hier à Butembo au cours d'une conférence de presse. Étienne Moindo.
L'ultimatum adressé par le gouverneur Julien Paluku Kahungia aux différents groupes armés du Nord Kivu comporte une sommation. Toutes les milices, particulièrement les Maïmaï de Baraka, de La Fontaine, de Jackson ou encore les combattants de Laurent Kunda, ont 21 jours pour déposer les armes, intégrer les brassages ou adhérer au programme national des DDR. Dépasser ces délais, précise-t-il, les milices réfractaires n'auront qu'à tirer les conséquences de leur entêtement, seront considérés comme ennemis de la République et traqués par l'armée nationale. Alors que les autres provinces du pays sont à la phase de la reconstruction, le Nord Kivu est à la traîne à cause de l'insécurité causée par les différents groupes armés, reconnaît le gouverneur Julien Paluku Kahungia, qui appelle la population de sa province à la culture de la paix.
La voix des sans voix pour les droits de l'homme se félicite de la visite de réconfort du chef de l'État aux populations sinistrées des Sake et aux FARDC au front contre les forces de Laurent Kunda. Dans un communiqué publié hier, cette ONG de défense des droits de l'homme salue aussi la fermeté du chef de l'État face aux insurgés. Pour cette ONG, il est temps que le chef de l'État réalise sa promesse électorale en se servant du bâton pour restaurer définitivement la paix. Rostin Manketa, membre de la VSV, je pars Nazaire Koko.
Que le chef de l'État utilise le bâton qui lui reste en main, comme il l'a dit au cours de son point de presse, parce que les capsules d'abattoir, il a dit les carottes sont épuisées, il ne reste que le bâton, et je crois qu'il est temps pour lui d'utiliser ce bâton-là pour mettre fin aux aventures militaires de Koum d'abattoir. Parce qu'en fait, nous considérons que il est temps que la population puisse effectivement jouir de la paix qu'on lui a promise pendant les élections ou même avant les élections. Et nous encourageons même la fermeté avec laquelle le chef de l'État s'est exprimé par rapport au cas Koum d'abattoir. Et nous avons demandé aussi que cette fermeté-là, qu'il puisse la réitérer aux membres du Conseil de sécurité en UR.
en rapport avec l'usage de la force pour enrayer les phénomènes Nkunda. La VSV demande au président de la République d'envoyer au front certains militaires qui ont déjà fait leur preuve à l'est du pays. L'ONG cite nommément le général Félix Boudjamabé. La matinée était très tendue ce mardi à Bukavu, province du Sud Kivu. À l'origine, le meurtre hier soir d'un opérateur économique et responsable d'une des grandes agences des voyages de Bukavu. Selon des témoins, des hommes armés en tenue civile ont surgi devant son domicile et lui ont tiré à bout portant. La même source indique que les malfrats n'ont pris que les téléphones portables de la victime et ont disparu. Retour sur les faits avec Astrid Mougina.
Le tronçon qui mène vers l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, quartier où se trouve le domicile de la victime, reste encore barricadé. Quelques pneus brûlent encore. Aucun véhicule, aucune moto n'emprunte ce passage. Un peu plus en bas de l'avenue, quelques policiers avec leurs boucliers sont en stationnement pour veiller à tout débordement. Il y a des attroupements des jeunes gens de la population du quartier. Tout le monde exprime le ras-le-bol de cette insécurité dont la population est sujette. Un jeune habitant du quartier s'exprime.
C'est ici qu'on l'a abattu. Nous, on se demande de la sécurité, c'est pour quoi faire. La police, on l'appelle pour qu'elle vienne intervenir et ne fait rien. C'est comme si nous n'avons pas de gouvernement de la République.
Toujours selon les témoignages, les policiers qui ont été alertés lors du drame auraient répondu qu'ils ne pouvaient pas se déplacer sans avoir reçu l'ordre. Et c'est l'amertume, la déception et le découragement qui pouvaient se lire sur les visages de cette population de ces quartiers qui a une nette impression d'être abandonnée à elle-même en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens. Depuis Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Nous le disions dans les titres, la Banque mondiale a présenté ce mardi à Kinshasa son plan d'assistance au gouvernement congolais pour les 5 prochaines années. Ce plan va s'appuyer sur les priorités du gouvernement congolais qui reprend en fait les conclusions du DCRP, document des stratégies pour la réduction de la pauvreté. Selon les représentants résidents de la Banque mondiale, ce projet vise l'éducation, la desserte en eau potable et la réforme des entreprises publiques. Est-ce ce projet va-t-il permettre à la Banque mondiale d'être plus pratique que théorique? Jean-Michel Appy, représentant résident de la Banque mondiale, au micro de Mimi Nguma Mulongo.
En termes de pratique, vous savez, je crois que la réhabilitation des écoles, c'est pratique. La réhabilitation des centres de santé, c'est pratique. Mais également, la construction de routes, la réhabilitation de routes, c'est pratique. Nous avons commencé cet effort, les défis sont importants et nous espérons naturellement être beaucoup plus présents, beaucoup plus proches des Congolais et des Congolaises.
S'il faut évaluer le CAS en termes de chiffres,
il nous paraît utile de garder présent à l'esprit des chiffres, mais ces chiffres doivent toujours être relativisés par rapport aux efforts que le gouvernement fait. Le portefeuille qui existe, qui est non décaissé, c'est un portefeuille qui a des engagements d'à peu près 2,3 milliards de dollars, dont près de 1,5 milliard de dollars sont encore non décaissés, mais c'est de nouveaux engagements que nous estimons aux environs de 900 millions de dollars qui viendront s'ajouter au portefeuille existant.
Adoption aujourd'hui à l'Assemblée nationale du rapport de la commission ad hoc sur l'examen de la proposition de la loi portant financement public des partis politiques. L'examen de cette loi article par article interviendra le jeudi prochain, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ouverture depuis hier à Genève du Forum mondial sur la jeunesse et les technologies de l'information et de la communication au service du développement. Des jeunes venus du monde entier participent à ces assises. Mais certains Congolais n'ont pas fait les déplacements de la capitale suisse, n'ayant pas obtenu de visa. Ce forum est organisé par le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, comme l'explique Cédric Kalogi depuis Genève.
Plusieurs associations et jeunes venus du monde entier participent à cette conférence et parmi eux des jeunes africains francophones pris en charge par l'unité jeunesse de la francophonie et l'Institut de la francophonie numérique. Certains participants africains, bien qu'ayant été pris en charge, n'ont pas pu effectuer le déplacement, n'ayant pas obtenu de visa. Parmi eux, le jeune participant congolais. Plusieurs groupes de travail ont été constitués pour aborder les questions relatives à l'accès à Internet et aux technologies de l'information et de la communication et leur apport pour le développement. Parmi les invités de marque, la première dame d'Égypte. Le Forum mondial sur la jeunesse et les technologies de l'information et de la communication qui a débuté lundi 24 septembre 2007 et clôturera le mercredi 26 septembre 2007. Depuis le Centre international de conférences de Genève, Cédric Kalongi pour Radio Okapi.
Fin de cette édition vespérale d'information coordonnée par Claude Bousset et Emmanuel Imanda. Merci de l'avoir suivi.